Chasseur de loups, de James Oliver Curwood, 1923. Les aventures de Oliver Curwood. Donc, aventure de Roderick, un trappeur, et Mukoki, son garde indien. Bloqué par la neige. Jusque-là, Rod avait oublié de parler des mystérieuses traces d'hommes qu'ils avaient rencontrées dans le ravin. Mais pendant le dîner, il décrivit les étranges manœuvres du Wanga qui l'espionnait. Les deux Indiens se réjouirent que les Wanga n'aient pas l'intention de les attaquer et semblent, pour une raison obscure, aussi soucieux d'échapper aux chasseurs de loups que ceux-ci de les éviter. Ils décidèrent d'aller repérer la première cascade. Mukoki était le plus rapide et le plus endurant en raquette. Il se porta volontaire pour effectuer la première reconnaissance. Il partirait le lendemain matin et pendant son absence, Rod et Wabigoon s'occuperaient des pièges. « Il faut localiser la première chute d'eau avant notre retour au comptoir », déclara Wabi. « Si, d'après ce que nous découvrons, la troisième cascade est à plus de 100 km du camp, on ne pourra pas y aller cette fois. Il faudra revenir à Wabinosh House et organiser une autre expédition avec des provisions fraîches et des outils appropriés. De toute façon, on ne pourra rien faire avant la fin des crues du printemps. J'y ai pensé, répondit Rod, les yeux brillants. Tu sais que Mère est seule et... Je comprends, l'interrompit le jeune Indien en posant affectueusement sa main sur le bras de son ami. Elle n'a pas beaucoup d'argent, continua Rod. Si elle a été malade ou si quelque chose, Wabi vint à son secours. Oui, rentrons avec nos fourrures et si tu veux bien, j'irai peut-être avec toi à Détroit. Tu crois que ça lui ferait plaisir ? Comment ça ? S'exclama Rod. Elle pense autant à toi qu'à moi. Wabi, elle sera absolument ravie. Le visage de Rod irradia de joie. Je reviendrai au début de l'été et nous partirons à la recherche de l'or. Mukoki, de très bonne humeur, acquiesça en souriant. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit et s'exclama. La neige ! Diablesse ! La neige tombe comme 20 000 diablesses. Wabi et Rod accoururent. La terrible tempête du Grand Nord se levait. Une tempête de neige qui sévit une fois par an dans l'infinie désolation arctique. La neige s'amoncelait déjà en silence. Doucement, une mer blanche et sourde, si épaisse qu'aucun œil humain n'aurait pu la pénétrer. Elle continua à tomber toute la nuit. Quand il se réveilla au matin, Rod essaya d'ouvrir la porte. Impossible. Il déposa la barricade de la fenêtre et une avalanche poudreuse lui dégringola sur les pieds. Il n'arrivait pas à savoir s'il faisait jour. En se retournant, il vit que Wabi, assis ses couvertures sur le dos, riait sous sa cape de le voir à ce point étonné. Mais qu'est-ce que... s'étrangla-t-il abasourdi. « On est enseveli sous la neige !» dit Wabi en souriant. « Le poêle fume !»« Non !» répondit Rod en jetant un regard perplexe vers le feu qui flambait. « Tu ne veux pas dire ?»« Alors on est complètement enterré !» l'interrompit son ami. « Le haut de la cheminée dépasse au moins !» Rod repoussa la neige avec une pelle et replaça la barricade pendant que ses compagnons s'habillaient. « Il faudra creuser des jours et des jours pour retrouver nos pièges !» déclara Wabi. « Et qui sait quand le blizzard se calmera ?» Il peut durer une semaine. Aucune chance de trouver notre cascade par ce temps. Ne me fais pas croire qu'il a assez neigé cette nuit pour recouvrir la cabane. Pas tout à fait en effet, concéda son camarade, mais comme elle est au bord d'une zone découverte, la neige s'entasse naturellement autour de nous, poussée par le vent. Si ce blizzard continue, nous serons sous une petite montagne avant ce soir. Cela ne va pas nous étouffer ? Demanda Rod d'une voix qui s'étranglait. Wabi poussa un cri amusé en même temps que fusait d'une salve de petits rires depuis l'endroit où Mukoki découpait le steak d'élan. On pourrait très bien survivre sous une montagne de neige si on n'était pas écrasé par son poids, expliqua Wabi. La neige contient de l'air. Une fois, Mukoki a été pris sous une avalanche et il est resté sous 9 mètres de neige pendant 10 heures. Il s'était fait un nid confortable de la taille d'un tonneau et lorsque nous l'avons délivré, il se portait très bien. On aura plus besoin de brûler beaucoup de bois pour avoir chaud maintenant. Après le petit déjeuner, les jeunes gens déposèrent à nouveau la barricade de la fenêtre et Wabi déclencha à la pelle de petites avalanches dans le mur de neige. En regardant au dehors, ils distinguèrent alors la lumière du jour et le blizzard qui tournoyait au-dessus de leur tête. « Elle arrive jusqu'en haut du toit !» souffla Rod. « Mon Dieu, quelle tempête !»« Viens, Rod, si tu veux voir ça de près !» lui cria le jeune Indien. Il rampa par la fenêtre dans le tunnel qu'il avait creusé, suivi de son ami. Wabi attendait avec un sourire espiègle, Mais à peine Rod l'avait-il rejoint que Wabi plongea profondément sa pelle sous la congère. Une masse de neige légère leur dégringola sur la tête et les ensevelit d'un coup entièrement. Rod, tombé à genoux sous l'effet de surprise, ouvrit la bouche, luttant en vain pour crier au secours. En se débattant, il arriva à décoincer ses pieds et Wabi, qui, lui, avait déjà sorti sa tête et ses épaules, hurla de rire en voyant dépasser seulement les bottes de son compagnon. Il lui attrapa les jambes et l'aida à se dégager, riant toujours. Rod ne ressemblait plus à rien. Il avait de la neige dans les oreilles, dans la bouche, et en s'agitant, il en avait aussi rempli le col de son manteau. Lentement, Rod se remit du choc, sourit et finit par s'amuser avec Wabi et Mukoki. Ce ne fut pas difficile pour les jeunes gens de se frayer un chemin à travers la congère et bientôt ils avaient avancé de plusieurs mètres. La neige leur arrivait à la taille. « Il n'y a pas plus d'un mètre d'épaisseur sur le plat. Pourtant, regarde, » dit Wabi en se retournant vers la cabane. On distinguait à peine un bout du toit. De la cheminée qui dépassait s'élevait de la fumée. Rod tourna sur lui-même, contemplant l'incroyable paysage autour d'eux. On ne voyait plus la moindre tache de noir. Il eut alors une pensée pour les animaux sauvages dans cette désolation qui semblait inhabitable. Comment pouvaient-ils survivre dans ce désert de neige infini? Comment se nourrir? Comment où trouver de l'eau pour boire? Il interrogea Wabi à leur retour dans la cabane. « Si tu marchais maintenant d'ici aux confins de la zone de tempête, tu ne croiserais aucun quadrupède vivant. Tous les élans, tous les cerfs, les caribous, les renards, les loups sont enterrés sous la neige. Et plus il en tombe, plus ils seront confortablement installés et bien au chaud. Car même lorsque le blizzard redouble de rage, le Créateur, dans sa grande bonté, a voulu qu'il leur soit facile de le supporter. Lorsque la tempête s'arrêtera, la nature se réveillera et revivra. Les grands animaux quitteront leur litière de neige et iront manger les jeunes pousses sur les arbres et les arbustes. Une croûte se sera formée sur la neige et les petits animaux pourront recommencer à se déplacer. » La tempête continua pendant 3 jours et il fut impossible aux chasseurs de ressortir. Mais à l'aube du 4e jour, le ciel était à nouveau dégagé. Rod s'aperçut qu'il était atteint de cécité des neiges. Ses yeux douloureux ne supportaient plus que quelques minutes l'éblouissante réverbération de ces étendues scintillantes au blanc étincelant. Le second jour après la tempête, Mukoki quitta la cabane pour suivre le ravin à la recherche de la première cascade. Sans tarder, Wabi commença à déblayer les pièges et à les réinstaller, mais ce ne fut que le lendemain que les yeux de Rod lui permirent de l'aider. C'était une tâche pénible. Tous les rochers, le moindre repère, étaient complètement recouverts et ils ne purent retrouver qu'un quart de leurs pièges. Ce soir-là, 2 jours après le départ de Mukoki, les jeunes chasseurs finirent enfin de remonter la ligne de piège dans la montagne. Mukoki n'était pas revenu. Un 3e jour passa, puis un 4e, sans voir son retour. L'espoir fit place à la peur. En 3 jours, Mukoki pouvait parcourir 150 km. Et s'il lui était arrivé quelque chose, ni l'un ni l'autre n'eut envie de quitter le camp ce jour-là. Les pièges étaient particulièrement productifs, parce que les animaux étaient affamés, et depuis la tempête, ils avaient capturé un loup, 2 lynx, 1 renard roux et 8 visons. Mais l'absence de Mukoki se prolongea, leur enthousiasme retomba. Dans l'après-midi, alors qu'ils guettaient, ils virent soudain une silhouette fatiguée apparaître au sommet de la colline. C'était Mukoki, un sourire épuisé, mais bienveillant aux lèvres. « J'ai trouvé la cascade, 80 km derrière la montagne. »« 80 km !» se récria Wabi. « La cascade est petite, pas plus haute que ça, » continua Mukoki en montrant du doigt le toit de la cabane. Rod leva les yeux. « Selon Mukoki et la carte, nous sommes donc au moins à 400 km de la 3e cascade. »« Baie d'Hudson !» grogna Mukoki. Wabi lâcha son steak très étonné. « Le ravin ne continue pas vers l'est ?»« Non, la rivière tourne vers le nord. » Rod ne comprenait pas pourquoi le visage de Wabi avait soudainement changé. Le jeune Indien finit par s'expliquer. « Les amis, si c'est ça, je peux vous dire où est l'or. Si le ruisseau du ravin coule vers le nord, il ne peut se diriger que vers un seul endroit, la rivière Albany. Et la rivière Albany se jette dans la baie James, puis la baie d'Hudson. La 3e cascade où nous attend notre trésor se trouve au cœur de la nature la plus sauvage, la plus inviolée d'Amérique du Nord. Ce qui signifie qu'une expédition plus longue et plus aventureuse qu'on ne l'ait jamais envisagée de toute notre vie. Hurrah ! Cria Rod. Leur or était en sécurité et aller là, le chercher, les conduirait au fin fond des terres enneigées les plus reculées de ce grand nord si romantique. « Au printemps prochain, Wabi !» Rod tendit la main et les deux autres la saisirent chaleureusement pour sceller leur serment. « Au printemps prochain !» répéta Wabi. Les deux semaines suivantes, le temps fut idéal pour relever les pièges. Les chasseurs avaient quitté Wabinosh House depuis 2 mois et Rod commença à compter les jours avant leur retour. Wabi avait estimé qu'ils en avaient pour 1600 dollars en fourrure et scalp, plus 200 en or. Rod se réjouissait de revenir chez sa mère avec sa part, 600 dollars, soit le salaire d'un an en ville dans son ancien emploi. Il ne chercha pas à cacher son désir de revoir Minnetaki et Wabi prit souvent plaisir à le taquiner gentiment à ce sujet. Ils décidèrent de se mettre en route la semaine suivante pour arriver à Wabinosh House vers le 1er février. Et Rod avait le moral au beau fixe. Ce jour-là, Mukoki et Rod avaient quitté la ligne de piège de la montagne tôt dans l'après-midi. Et peu après avoir traversé le marécage, Rod décida de monter sur la crête dans l'espoir de pouvoir tirer du gibier en redescendant vers la cabane. Mukoki préféra rester sur le chemin le plus simple et le plus direct. En haut de la montagne, Rod s'arrêta pour admirer le paysage. Il aperçut Mukoki à peine plus gros qu'un petit point, à présent se déplaçant à l'autre bout de la plaine, vers le nord, s'étendait à perte de vue l'immense et fascinante région, sauvage, inchangée. Vers l'est, il vit bouger quelque chose qu'il identifia comme un élan ou un caribou, et vers l'ouest, un hurlement d'horreur lui échappa. Il appela Mukoki, mais le vieil indien ne l'entendit pas. Une épaisse fumée montait de leur camp. Le ciel en était noir, et dans le terrible instant qui suivit, son cri perçant vers Mukoki parvint à Rod le bruit de coups de feu. Il s'écria encore « Mukoki, Mukoki !» Mais le vieil indien n'était pas à portée de voix. En un éclair, Rod se souvint qu'au début de leur voyage, ils avaient mis au point pour appeler à l'aide, tirer 2 coups de feu, puis, après une pause, 3 autres rapidement enchaînés. Il arma sa carabine et tira en l'air comme prévu. Tout en observant Mukoki, il la rechargea. Il vit l'indien s'arrêter, se retourner et regarder vers la montagne. De nouveau, l'écho du signal se répercuta au-dessus des plaines. Il avait atteint les oreilles de Mukoki en quelques secondes. Le vieux guerrier faisait demi-tour et revenait en courant. Rod se précipita à sa rencontre en longeant la crête. Il tira un coup de feu de temps en temps pour lui faire savoir où il était. Un quart d'heure plus tard, Mukoki escaladait la montagne haletant. « Les Wangas ! Ils ont attaqué le camp ! Regarde !» lui cria Rod, le doigt tendu vers le nuage de fumée. « J'ai entendu des coups de feu !» Des coups de feu. L'éclaireur observa pendant un instant l'air sombre, le camp en flammes, puis sans un mot, il s'engagea dans la pente à une vitesse fulgurante. La course d'une demi-heure qui suivit fut une des expériences les plus folles de la vie de Rod. Lorsqu'il parvint au pied de la colline d'en face, son cœur semblait prêt à exploser sous le terrible effort physique et il n'arrivait plus à parler. Mais il s'élança derrière Mukoki pour l'escalader, la carabine armée prête à faire feu. En haut, ils s'arrêtèrent. Le camp était un champ de ruines consumé lentement. Pas un signe de vie. Mais, poussant un cri de surprise inarticulé, Rod attrapa Mukoki par le bras et lui montra une forme dans la neige, à une dizaine de mètres de ce qui avait été la cabane. Le guerrier l'avait vu. Il se retourna vers Rod avec un regard que le garçon n'aurait jamais pensé voir dans les yeux d'un être humain. Si le corps en contrebas était celui de Wabi, si Wabi avait été tué, quelle ne serait pas la vengeance de Mukoki ? Il n'y avait ni pitié, ni rien qui puisse indiquer la moindre humanité dans ce terrible regard-là. Ils dévalèrent la colline, traversèrent le vallon, contournèrent le lac, et bientôt Mukoki était à genoux, à côté du corps dans la neige. Ce n'était pas Wabi, mais un Indien gigantesque, déformé par la mort, et la moitié de la tête emportée par une balle. Quand Rod regarda à nouveau Mukoki, le vieil Indien était au milieu des ruines brûlantes, donnant des coups de pied en tous sens et fouillant le sol avec la crosse de sa carabine.